Bonjour à tous. S'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est perdre un de mes livres. Pourtant, il y a certains titres que j'ai prêtés afin de partager mon bonheur de lecture qui ne me sont jamais revenus. Et il y en a d'autres que j'ai perdus au fil de mes déménagements. C'est le cas du titre phare de Christine Arnotti, « J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir », que j'avais lu au collège et qui m'avait énormément marqué. Il y a quelques jours, par le plus grand des hasards, ma voisine, sachant que j'aime lire, m'a donné quelques livres qu'elle ne voulait pas garder. Et parmi eux, il y avait cet ouvrage tant regretté. Je l'ai donc relu, avec mes yeux et mon cœur d'adulte. Et c'est lui que je vous présente aujourd'hui dans Évasion romanesque. Il y a Le journal d'Anne Frank et J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir, deux livres autobiographiques que chacun devrait avoir lus sur les exactions de la Seconde Guerre mondiale. De son vrai nom, Irène Kovács de Zendro, Christine Arnotti est née en 1930 à Budapest, en Hongrie, et est morte en octobre 2015, au bel âge de 84 ans. Son père était professeur de latin et de grec, et c'est sa mère qui lui enseigne le français. Avant de quitter la Hongrie en 1948, elle vit le siège de Budapest par les Allemands en 1945. C'est dans une cave de son immeuble qu'elle commence l'écriture du roman d'aujourd'hui. Ses précieux feuillets la suivront, cachés dans la doublure de son manteau. Rassemblée en livres et suivie d'Il n'est pas si facile de vivre, son histoire est publiée en 1955. Au cours de sa carrière, elle reçoit de très nombreux prix littéraires et voit son autobiographie d'adolescente devenir un classique des études scolaires. Épargnée par la guerre entre 1939 et 1945, les Allemands prennent d'assaut la Hongrie face aux Russes en 1945. Retranchée dans Budapest, les bombardements détruisent tout et les habitations éventrées ne permettent plus aux habitants de se sentir en sécurité. Ils se retranchent dans les caves et doivent apprendre à vivre en communauté terrée et apeurée. C'est dans cette ambiance d'angoisse que Christine tient une sorte de journal où elle décrit ses deux mois d'enfer rythmés au son des bombes et à la restriction de nourriture et à la crainte que leur robinet au fond de la cour ne leur distribue plus d'eau. Christine, 15 ans, voit s'envoler ses années d'adolescente et se dit qu'il est idiot de mourir si jeune alors qu'elle n'a rien vécu. Les corps tombent, les uns après les autres, soldats allemands, russes et les habitants voisins aussi. Puis arrive le moment où les Russes l'emportent, mais rien ne s'arrange. La famille de Christine décide alors de quitter Budapest pour rejoindre leur maison de campagne en Transdanubie. Mais toutes les voies ferrées de ce côté du fleuve ont été détruites. Il faut donc faire le chemin à pied en espérant que les Russes ne les réquisitionnent pas pour le travail forcé. Au bout du chemin, ils retrouvent leur villa, saccagée mais habitable. Et 3 ans durant, ils vivront à peu près normalement, épuisés et hantés par les horreurs du siège de Budapest, mais vivants. C'est alors que le régime politique change et que le père de Christine, sentant le vent tourner, décide de partir pour l'Autriche en catimini. Mon père tient des papiers à la main, ma mère range des vêtements dans une valise. Les portes des armoires sont grandes ouvertes et dans un coin, une caisse au couvercle relevé est à moitié remplie de livres. « Pour quand le départ ?» demandai-je avec un petit tremblement à la pensée de devoir sortir de la maison sous cette pluie qui tombait à verse. « Demain soir, mon enfant, » me dit ma mère, d'un ton qui me parut être celui du reproche. Me voici blotti près du poêle et je n'ai ni la force ni l'envie de remuer. La chaleur m'a engourdi et je me sens comme transporté dans une salle de cinéma où mes parents évolueraient sur un gigantesque écran. C'est inouï tout ce que nous avons. Lorsque nous sommes arrivés ici il y a 3 ans, nous avons dû nous mettre au travail comme des pionniers du Far West s'installant sur une terre à défricher. Nous avons recloué les portes fendues, nous avons recueilli des plumes une à une pour bourrer les oreillers crevés. Nous avons ramassé les ustensiles de cuisine qui avaient été jetés dans le jardin derrière la maison et c'est également là que nous avons trouvé les couverts, à même la terre. Les paysans nous avaient contemplés d'abord avec méfiance, comme si nous n'étions pas des êtres vivants, mais des revenants qui auraient refusé de s'évanouir après une séance d'occultisme. Quand ils nous croisaient, on voyait qu'ils avaient envie de nous toucher et que, derrière nous, ils chuchotaient avec un mélange de crainte et de respect, que nous étions des rescapés du siège de Budapest. Par la suite, ils s'étaient habitués à l'idée que nous étions vivants et ils étaient devenus plus familiers. Un jour, celui qui, avant la guerre, nous vendait le lait, nous avait apporté une poule couveuse et des œufs. « Comme mademoiselle a grandi, » m'avait-il dit. Je m'étais alors étonnée d'apprendre que, dans notre cave, j'avais grandi au lieu de mourir. Parfois, j'étais prise d'une peur intérieure, mais c'était une peur seulement physique. Je n'avais en ces instants rien de commun avec mon corps. Les jours qui s'étaient écoulés depuis le siège m'avaient trompée et trahie. J'avais quitté la cave remplie d'une ardente attente. Une enfant qui était morte. elle continuait sa vie en grande personne. Lorsque mes parents m'annoncèrent que nous allions franchir la frontière, ce fut pour moi une nouvelle lueur d'espoir. La vie allait peut-être enfin commencer. « Que deviendra le chien ?» demandai-je soudain. À cette question, ma mère s'arrêta net, comme si je venais de la frapper. Le chien a dû se rendre compte qu'il était question de lui, car il sort du coin où il était couché jusqu'ici et remue la queue. Il n'appartient à aucune race définie, c'est un bâtard, mais il est infiniment gentil et intelligent. Il nous observe attentivement et semble sourire. Il doit être persuadé que nous disons de lui des choses bien agréables. Trahir un chien est plus cruel encore que de trahir un homme, car il ne sait pas de quoi il s'agit et ne peut juger que d'après les intonations et les physionomies. Si on lui dit les choses les plus méchantes en souriant et d'une voix douce, il vient vous lécher la main avec reconnaissance. Je ne veux pas trahir notre pauvre chien. « Que deviendra le chien ?» demandai-je à nouveau. « Il faudrait le donner au notaire, » dit ma mère, en pensant tout haut. Mais sitôt sa phrase échappée, elle se rend compte que ce n'est pas possible, car nous ne pouvons parler de notre départ à personne. Sous quel prétexte, alors, confierons-nous ce pauvre toutou à quiconque ? La question reste en suspens. À travers notre remue-ménage, elle ne cessera de nous poursuivre. Cette question sans réponse les accompagnera jusqu'à l'heure où ils monteront dans le train, les emportant vers le passeur qui leur a promis de leur faire passer la frontière austro-hongroise. S'ensuit un voyage éprouvant pour des gens qui sont déjà usés. Malgré tout, ils rejoignent Vienne, la ville tant attendue. Et le passeur, avant de les quitter, a eu la gentillesse de changer leur argent en monnaie locale pour un bon prix. Ils peuvent enfin recommencer leur vie dans une ville nouvelle, détruite, certes, mais où tout est à reconstruire. Sauf que la paix n'est pas encore au programme. L'argent si gentiment échangé n'a plus cours en Autriche depuis plus d'un an. La petite famille n'a plus rien. Ce qu'il se passe ensuite est rapporté dans la seconde partie du livre « Il n'est pas si facile de vivre » que je vous laisse le soin de découvrir.
L'actu des bibliothèques.
Puisque le 1er mai se fêtera confiné et que nous ne pourrons ni vendre ni acheter de brin porte-bonheur cette année, la médiathèque Fabrice Melchiot de La Rochette vous invite à créer, inventer, voire idéaliser votre brin de muguet version 2020. Pour que la tradition qui aurait été lancée par Charles IX se poursuive malgré cette période différente, envoyez vos cartes ou autres photos d'objets porte-bonheur à l'adresse mail suivante médiathèque@valjelon-la-rochette.com. Ainsi, le mur Facebook de la médiathèque de La Rochette pourra être transformé en talisman géant.